Radio Kapi.
Le journal, présenté par Gavin Bringa.
Bonsoir et merci de choisir Radio Kapi pour vous informer. Voici les titres de ce journal. L'actualité de ce soir, toujours focalisée sur l'appel au dialogue de l'opposant Martin Fayulu pour mettre fin à la crise dans l'est de la RDC. Vous suivrez la réaction du porte-parole du gouvernement qui salue cette main tendue du président de l'ECID. Et puis ce SOS du directeur de la province éducationnelle Kwilu 1 dans l'ex-Bandundu est pour cause. Plus de 8 écoles publiques et privées sont détruites dans le chef-lieu de la province du Kwilu. Conséquence de fortes pluies qui s'abattent sur cette ville ces derniers temps. Le port d'Akoula dans le sud d'Ubangi, victime des tracasseries administratives. Du coup, cette situation empêche les opérateurs à investir dans cette partie de la RDC. Explication de tous ces problèmes avec le gouverneur de province, Michel Mobonga, et notre invité. Bonsoir à tous. Encore et toujours des réactions après l'appel au dialogue de Martin Fayulu entre le gouvernement congolais et les belligérants face à la crise sécuritaire qui secoue l'est de la RDC. Patrick Muyaya, par exemple, salue cette main tendue de l'opposant politique au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias réagissait à une question lors du briefing de presse co-animé hier lundi avec son collègue de l'industrie et des développements des PME ici à Kinshasa. Pour Patrick Muyaya, le discours de l'honorable Martin Fayulu est un acte de haute portée patriotique. Il encourage ainsi les Congolais à faire bloc pour faire échec à cette tentative de congoliser l'agression qui vient pourtant de l'extérieur. Les propos de Patrick Muyaya, recueillis ici par Blaise Chindani.
Dans un contexte où nous avons vu se faire un bloc autour de l'axe du mal. Lorsque je parle de l'axe du mal, vous savez bien de quoi je parle. Et lorsque vous voyez cette tentative malsaine de vouloir congoliser l'agression qui vient pourtant de l'extérieur, aujourd'hui nous avons besoin, et j'espère que vous-même vous en ferez part, d'un bloc des patriotes qui vont mettre fin à toute initiative tendant à ouvrir à une quelconque forme les légitimations, entre guillemets, de ce que fait le Rwanda en RDC sous des fallacieux prétextes. Et donc, il faut considérer que, évidemment, il y aura des détails qui suivront sur comment cette disponibilité du président de la République sera traduite en action pour la rencontre avec le président de l'ECID. Mais ici, il faut considérer que c'est l'enjeu de la survie de notre pays qui est engagé, et c'est un acte patriotique qu'a posé l'honorable Fayulu ce soir.
Interdiction formelle de toute diffusion ou publication des informations sur les activités de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, basé à Goma, au Nord Kivu. C'est le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est ça qui vient de le signifier. Dans un entretien accordé ce mardi à Radio Kapi, Christian Bossembe parle d'une mesure conservatoire qui corrobore à la décision de la suspension de son parti, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Le président du CESAC promet cependant des sanctions sévères aux réfractaires de cette mesure. Christian Bossembe au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
Et du moment où un parti est suspendu, pour des motifs que tout le monde connaît, nous ne voyons pas l'opportunité de laisser ce parti continuer à émettre son point de vue, à faire de la propagande et à transformer le plateau en des tribunes de manipulation et de subversion. Donc il était question pour nous, de façon logique, de mettre terme à cela. Et encore une fois, ce n'est pas une décision, c'est une mesure conservatoire. Le problème, c'est que pour avoir une mesure définitive, c'est-à-dire une décision, on va recourir à la plénière. Et la plénière aura lieu jeudi. Et nous soumettrons la question à la plénière. Deuxième élément, c'est l'interdiction de l'autorité morale de ce parti-là, qui a été identifié par les services compétents comme l'auteur moral de cette rébellion. Alors, il fallait trouver une solution pour ça. Depuis un certain temps, les faits sont là. Au-delà de tout, nous estimons que le peuple congolais a besoin d'unité, de la cohésion nationale, et on ne permettra pas qu'un groupe d'individus prenne en otage tout un peuple. Les sanctions peuvent aller de la suspension simple à la suppression ou au retrait ou de la fréquence.
Et puis début de l'instruction préjuridictionnelle à charge du ministre de la Justice Constant Mutamba ce mardi au parquet général près la Cour de cassation. Le ministre s'est présenté au parquet accompagné d'une vingtaine d'avocats venus l'assister. Ses nombreux sympathisants et les personnels de son cabinet qui l'accompagnaient avec des sifflets ont été empêchés par la police d'accéder au parquet après une résistance et un tumulte auditionné par l'avocat général Sylvain Kalouila, assisté du magistrat Christophe Moussemé Mutamba. Mutamba fait l'objet d'accusations de détournement présumé de 29 millions de dollars américains destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours de Kisangani et du marché de gré à gré contracté par l'entreprise Zion Construction chargée de la construction d'une prison dans la même ville. Nous y reviendrons. Autre titre, l'Assemblée nationale a examiné hier lundi le projet de loi des finances rectificatives exercice 2025 porté par le ministre d'État, ministre du Budget Aimé Boje Sangara, qu'accompagnait la vice-ministre des Finances Onesh Nsele. Le budget rectificatif 2025 connaît une réduction des recettes par rapport aux prévisions votées en décembre 2024 sous le plan des dépenses collectives budgétaires qualifié de budget de la guerre réduit les dépenses courantes du train de vie des institutions pour renforcer sensiblement le budget de l'armée. Michel Kifindangoy pour le reportage.
À 13 jours de la clôture de la session de mars, l'Assemblée nationale entame l'examen du collectif budgétaire 2025. Avant la présentation de ce projet de loi, les speakers de la Chambre basse du Parlement invitent les élus à un examen sérieux de ce texte au vu du contexte dans lequel il est exécuté. Vital Kamere.
C'est à votre qualité d'autorité budgétaire que vous êtes invité à examiner la loi des finances rectificatives afin de procéder aux meilleurs arbitrages et d'autoriser les nouvelles allocations des ressources vers les postes les plus pertinents en tenant compte des évolutions récentes.
Pour le ministre d'État à charge du budget, la loi des finances ainsi soumise à la rectification est un budget de guerre. Aimé Boji.
Ce projet de loi des finances rectificatives est avant tout un budget d'urgence et de survie nationale. L'impact de la perte de recettes dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. À fin mars 2025, le taux de réalisation de recettes courantes se situe à 71,1% par rapport à la prévision linéaire de 8 054 milliards de francs congolais.
La plénière souveraine déclare donc recevable ce collectif budgétaire et l'envoie en commission ECOFIN pour un débat général et un examen approfondi.
Commémoration du 25e anniversaire de la guerre de 6 jours à Kisangani, l'ONG Action pour la justice, le développement et les droits humains frappe aux portes des autorités locales et nationales. Elle sollicite leur implication en vue d'organiser une série d'activités commémoratives de cet anniversaire à même de reconstruire la mémoire collective sur ces événements funestes. Son directeur exécutif s'est exprimé hier lundi à Kisangani au cours d'un point de presse en marge justement de la commémoration de cet anniversaire douloureux. Objectif déclaré, faire le plaidoyer national et international en faveur des victimes. Quelles leçons peut-on tirer de la guerre de 6 jours? Jedidia Mabela, secrétaire exécutif de l'AJDDH, explique au micro de Jacques Mokonkole.
Il y a plusieurs leçons à tirer. La première, c'est que l'impunité fait les lits des cycles de violence dans la sous-région du Grand Lac. Le Rwanda qui n'a jamais été condamné, poursuivi, qui n'a jamais payé les frais de la guerre de 6 jours, profitent de l'impunité pour refaire la même chose aujourd'hui, sont impliqués activement dans l'agression de notre pays à l'Est. Deuxièmement, il faut aussi reconnaître que la justice pour construire la paix, et donc la justice est essentielle, et cette justice passe par un processus de vérité, un processus de pardon, un pardon sincère, et un processus de réconciliation.
Que faire à l'avenir pour éviter ce genre de drame?
L'État congolais doit construire une armée républicaine, une armée qui soit à mesure de défendre l'intégrité territoriale. Et aussi, nous devons nous mettre d'accord sur le pacte républicain, la constitution, et éviter de recourir aux armes comme moyen d'expression politique ou comme moyen pour accéder au pouvoir.
Direction Bandundu-Ville à présent avec ce cri de détresse du directeur de la province éducationnelle Kwilu 1. Plus de 8 écoles, tant publiques que privées, de cette ville détruite. Conséquence de fortes pluies qui s'abattent ce dernier temps sur ce chef-lieu de la province du Kwilu. Certaines d'entre elles ont perdu leur toiture, d'autres des murs et d'autres encore sont totalement détruites. Du coup, des milliers d'élèves ne savent plus suivre des enseignements. C'est pourquoi Hervé Mungeta Makoulé sollicite une intervention urgente du gouvernement provincial et national. Le directeur de la province éducationnelle Kwilu 1 plaide aussi auprès des partenaires éducatifs pour des solutions définitives. On l'écoute au micro de Irène Mbomaluzolo.
Il y a des écoles où les toitures ont été emportées et c'est comme ça que nous avions lancé les cris d'alarme. Moi, j'envisage plutôt des solutions à long terme. En ce qui concerne les enfants victimes, il faudrait qu'on puisse prendre des dispositions utiles pour faire ce que nous appelons des contingences. Ça, j'en ai parlé même lors de la revue annuelle. Si on avait les systèmes de contingences, nous allons pouvoir regarder très bien ces enfants. Mais en ce qui concerne ces écoles abîmées, d'ailleurs, il n'y a pas que les écoles, même la maison du proverbe de qui vous parle ici. La foudre s'est abattue sur la toiture et toutes les toiles sont parties. Alors, ce que nous pouvons avoir comme appui, il n'y a que son excellence, monsieur le gouverneur, chez qui nous pouvons faire le plaidoyer. Très souvent, quand ça brille les alens et ainsi de suite, vous voyez les partenaires éducatifs, les PTF, ils y vont vite. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'à côté de nous ici, et ce sont les mêmes enfants qui sont brimés, il y a des brimades, mais c'est comme si nous sommes là et nous allons transmettre notre correspondance sous forme de mémo aux conseillers du ministre qui sont venus, les superviseurs nationaux, pour que même au niveau national, on puisse nous assister.
Et puis cette triste histoire pour l'internat du lycée Kolikori de Fatake en Ituri, il a fermé ses portes depuis bientôt 10 ans, à la suite, vous vous en doutez, de l'insécurité permanente dans la région. Ce cadre de formation et de l'éducation des jeunes filles d'une capacité d'au moins 300 élèves accueillait des enfants venus de presque toutes les provinces de la RDC, dont Kinshasa, Kisangani et ailleurs. Toutes ces gloires relèvent du passé. À ce jour, le lycée n'est opérationnel qu'avec près d'un tiers de ses effectifs, tandis que l'internat complètement fermé. Reportage de Sadiki Aboubakar qui a visité cette institution.
L'internat du lycée Kolikori de Fataki fut l'un des anciens et plus grands dans la région. Sa qualité d'encadrement et de formation des élèves était à la base de son attraction, en plus du beau climat et du paysage naturel sur des collines surplombant Fataki. Cependant, son histoire sombre commence en 1999, marquant le début de la guerre interethnique en Ituri. Ces jolis bâtiments, construits à l'époque coloniale, ont été vandalisés à plusieurs reprises par des miliciens. La sœur religieuse Denise Diotché, une des anciennes du lycée, est l'actuelle préfet des études.
En 1999, quand la guerre a commencé, j'étais élève ici. Et c'est nous qui étions les derniers à être évacués de ce lycée. Et on a encore réouvert en 2005. Et là, on est allé jusqu'à 2017. Mais c'est depuis 2017 que les choses n'ont pas marché à cause de ces atrocités.
Parlant justement des atrocités, la milice Codeco a fait une nouvelle incursion dans ce lycée en mars dernier. Ils ont saccagé tout ce qui restait des dortoirs de l'internat, mais aussi de la grande salle où étaient organisées jadis des activités culturelles. En plus de la réhabilitation de ces infrastructures, la sœur préfet plaide pour la restauration de la paix sur toute l'étendue du territoire de Djougou en vue de favoriser l'éducation des enfants et le développement du milieu. Des retours de Fataki, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Au moins 4 morts et 13 blessés, bilan d'un accident de circulation survenu dans la soirée de dimanche sur la nationale numéro 1 au niveau du village Pont-Kouango dans la province du même nom. Un gros véhicule qui quittait Kikwit pour Kinshasa s'est renversé à cause de la défectuosité du système de freinage. Selon les témoignages, plusieurs blessés présentent des fractures ou des cas graves. Débordés, la commune ne parvient pas à assurer leur prise en charge. Le bourgmestre de la commune rurale du Pont-Kouango, Jean-Baptiste Nkololo, qui le dit, sollicite l'intervention du gouvernement pour leur prise en charge. Plus d'explications avec Irène Mbomaluzolo.
D'après les sources locales, le drame s'est produit dans la soirée de dimanche au niveau du village Pont-Kouango situé sur la route nationale numéro 1 dans les territoires de Kenge. Nous sommes dans la province du Kouango. Il s'agit d'une remorque transportant des marchandises en provenance de la ville de Kikwit pour Kinshasa qui a terminé sa course dans les caniveaux. Jean-Baptiste Nkololo, bourgmestre de la commune rurale du Pont-Kouango, parle de la cause et du bilan de cet accident mortel.
Ils ont connu une panne technique. Il n'y avait pas de frein. C'est ça qui a causé l'accident. Et le véhicule s'est renversé. Jusque-là, nous ne savons pas si tous les marchandises on peut avoir des gens, mais on n'a pas encore vérifié. Parmi les 17 personnes, il y a 4 morts, dont le chauffeur, un client alors. Au niveau des piétons, il y a eu 2 personnes qui sont mortes, une femme et un homme. Maintenant, les blessés sont au nombre de 13. Parmi les 13 qui sont vivants, qui ont des blessures, il y a 9 personnes piétons de Pongkouang. Et les autres sont les clients qui étaient à bord de ces remorques.
Au regard de la gravité de la situation, l'autorité communale lance un appel au gouvernement tant provincial que national pour une évacuation urgente des blessés les plus atteints. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Grogne au sein de l'Office congolais de contrôle, les agents de cet établissement public ont manifesté ce mardi devant le siège de l'Office à Kinshasa. Motif, ils exigent le départ du comité de gestion actuel. D'après le vice-président de la délégation syndicale nationale de l'OCC, 4 griefs sont mis à charge du comité dirigeant, entre autres la mégestion, le retard de paiement depuis près de 2 mois, le manque d'accès aux soins appropriés et des frais de fonctionnement dans d'autres entités territoriales. Bertin Kassiama était sur place pour le reportage.
Des coups de sifflet accompagnés des chants exigeant le départ du directeur général actuel ont accompagné ces agents de l'OCC face à une porte d'entrée barricadée par les éléments de la police.
Nous exigeons le départ du comité actuel de l'OCC parce qu'à leur avènement, on payait le salaire sans problème, le frais de fonctionnement, allez, sans problème. Les retraités étaient payés, les décédés non plus, les décomptes fumés de tous ces gens non plus. Mais nous sommes en train de voir que l'entreprise est en train de sombrer.
Les vice-présidents de la délégation syndicale nationale Abbé Dimon-Anteba revient sur les causes qui ont conduit à cette grève.
Nous sommes en grève aujourd'hui, c'est pour 3 points. Le premier point, c'est celui des paiements en retard des salaires des agents. De 2, il y a l'accès aux soins médicaux de nos agents, de nos agents et cadres de l'OCC. Aujourd'hui, l'agent de l'OCC, il est chassé dans tous les centres hospitaliers du Congo. Troisièmement, il y a le non-envoi de frais de fonctionnement pour que les entités puissent bien fonctionner afin que la production soit boostée. Il y a de ces entités qui font 3 mois sans pourtant avoir les frais de fonctionnement. Et cela, ça aura un impact dans le comportement des agents qui se trouvent dans les frontières.
Ces décisions de grève émanent de l'Assemblée générale tenue samedi 31 mai à Kinshasa.
Actualité internationale.
En Guinée, le porte-parole de la présidence a promis justice à des concitoyens victimes d'une arnaque au pèlerinage à la Mecque. Selon la police guinéenne, une femme se faisant passer pour une proche de la mère du président de transition du pays promettait un séjour en Arabie Saoudite contre plusieurs milliers d'euros.
L'invité.
Le port d'Akoula dans le sud Ubangi fait face aux tracasseries administratives. La multiplicité de taxes et services de l'État empêche les opérateurs à venir investir dans cette province. Le gouverneur de province, Miché Mobonga, est notre invité. Il s'entretient ici avec Askin Zigbiata Yoro. Suivez.
Bonjour, monsieur le gouverneur Miché Mobonga.
Bonjour.
Voilà, au cours de votre point de presse tenu mercredi dernier, vous aviez dénoncé le tracasserie administrative au port d'Akoula, raison pour laquelle vous comptez prendre des mesures contraignantes pour y faire face. Alors concrètement, monsieur le gouverneur, comment décrivez-vous cette tracasserie?
C'est pour moi une occasion de vous dire d'abord merci de m'avoir accordé cet espace de temps pour expliquer ce que j'ai dit au cours de mon point de presse tenu le mercredi passé devant les journalistes locaux dénonçant les tracasseries administratives au port d'Akoula. C'est pour moi une occasion de parler de ma province. La tracasserie administrative est perçue de 3 manières, à savoir la multiplicité des taxes. Il faut ici relever notamment la dispute de certains actes générateurs entre les services d'assiette. En deuxième lieu, il y a aussi la présence de plusieurs services dans les ports et aéroports. À Akoula, il s'est fait malheureusement constater la présence de plusieurs services dans les ports. C'est la même chose, la même réalité dans les ports de Mogalo, Dongo et Zongo. Et c'est en dépit des instructions qui limitent à 4 le nombre de services appelés à œuvrer dans ces endroits stratégiques. La troisième, c'est la lenteur dans le traitement et la délivrance des dossiers administratifs par les services déconcentrés. Il s'observe malheureusement pour ce point que pour obtenir des services déconcentrés et documents administratifs, il faut passer plusieurs jours, voire des mois, malgré les efforts de sensibilisation pour l'amélioration du climat des affaires.
Et jusque-là, quelles en sont les conséquences sur l'économie de votre province, monsieur le gouverneur?
Il est clair que les tracasseries administratives ont des conséquences réelles et négative sur l'économie de la province. Elle exerce une pesanteur sur les recettes de la province, c'est-à-dire qu'elle occasionne le coulage des recettes provinciales.
Juste, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un coup de fil d'un opérateur économique. Il était en train de ramener 20 000 sacs de ciment dans notre ville de Guémena pour décourager la hausse des prix. Et voilà, l'homme est venu, il a commencé à décharger les ciments, mais il a eu des vertiges. Pourquoi a-t-il eu des vertiges? Parce que tout le monde se prétendait taxataire. Tout le montant était exorbitant. C'est pourquoi il s'est décidé, il dit non, monsieur le gouverneur, je vous informe, je ne vous ai pas dit avant de le faire. Je vous informe que je suis en train de remettre tout le stock dans les bateaux pour aller vendre ça à Bangui. Donc, vous comprenez quelles conséquences? Le monsieur qui ramenait 20 000 sacs de ciment, il est découragé par la multiplicité des taxes au port d'Akoula et il quitte notre port et aller vendre ses ciments à Bangui.
Alors, comment comptez-vous résoudre ces problèmes, bien sûr, au niveau du port d'Akoula?
Nous comptons, dans les jours à venir, instituer aux différents ports, comme au port d'Akoula, un guichet unique qui regrouperait tous les services taxataires légalement reconnus en vue de mettre fin à la multiplicité des taxes et éviter ainsi tant soit peu le coulage des recettes. 2. Instruire les chefs de division des services déconcentrés à afficher les frais légalement reconnus afin que les délais reculent pour l'obtention des documents administratifs pour éviter la surenchère et la lenteur administrative qui décourage les honnêtes citoyens et favorise le secteur informel. 3. Sensibiliser les opérateurs économiques sur leurs droits et obligations en vue de dénoncer tout cas de tracasserie administrative et sanctionner sévèrement les contrevenants aux mesures énoncées qui seront prises en concertation avec toutes les parties.
Mais monsieur le gouverneur, lorsque vous faites allusion à la multiplicité de services au port d'Akoula, n'avez-vous pas la même mise sur tous ces services au niveau d'Akoula?
Certains services autorisés à œuvrer aux frontières ne relèvent pas de l'autorité directe des provinces. Il s'agit ici de l'OCC et la DGDA pour toutes ces prestations. Pire encore, la collaboration avec les responsables provinciaux dans les services est butée à l'éloignement de leur direction provinciale qui se trouve jusqu'à présent dans les provinces sœurs de l'Équateur. C'est d'ailleurs ici les liés de mentionner que la conférence des gouverneurs des provinces, dont la tenue de la 12e session est prévue du 10 au 13 juin prochain, sera pour nous l'occasion de réitérer au gouvernement central la demande de poursuivre l'installation des directions provinciales de la BCC, des régies financières, par là la DGDA, la DGI et la DGRAD, ainsi que d'autres services dans les nouvelles provinces démembrées.
Je vous remercie, monsieur le gouverneur.
Merci beaucoup à la Radio Okapi.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Au nom de Martin Seboujangwe, Jude Misser Bilanda, Richard Junior Kamunga et Billy Landry Betou, je vous dis merci de l'avoir suivi et excellente soirée à toutes et à tous.